Je vous invite à lire deux textes très courts dans Luc 24, 25. Le premier se trouve dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 25. Est-ce que quelqu'un peut juste faire en sorte que... Ah oui, j'ai oublié de brancher. Luc 24... Verset 25. Juste pour résumer le contexte de ce verset, ce sont les disciples d'Emmaüs qui, le jour de Pâques, en tout cas le lendemain, s'en vont du village nommé Emmaüs. Enfin, ils viennent de Jérusalem et Emmaüs. Et donc, ils sont en chemin. Et en chemin, ils rencontrent un personnage qu'ils ne connaissent pas, qui est Jésus ressuscité, et qui marche avec eux. Et lorsqu'ils arrivent à leur domicile, Jésus veut les quitter, il ne veut pas s'imposer, et finalement, ils invitent Jésus à rentrer. Et en chemin, là, verset 25, Jésus leur dit « Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. » Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Le deuxième texte que nous allons lire est tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, où Paul s'adresse aux Corinthiens, mais aussi à nous. C'est une épître universelle pour tous les croyants. Et au verset 23 du chapitre 1er, donc première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 23, Paul martèle un petit peu sa vocation, ce pourquoi il est là. Et il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais pour tous ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et au verset 27, il dit « Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Amen. Vous voyez, quand les hommes ont construit la tour de Babel, leur objectif, c'était de se donner un nom. L'homme est en quête d'un nom, est en quête d'une identité, est en quête de savoir pourquoi il est sur la terre. Et le nom qu'ils ont donné, c'est quoi à cette tour? Vous le connaissez tous, à Babylone. Le nom qu'ils ont donné quand ils ont construit la tour, oui, Babel. Et c'est que vous savez dire quoi, Babel ? Confusion. Confusion. Et vous, c'est étonnant que l'homme se donne un nom, et ce nom, c'est confusion. Vous aimez, vous, être dans la confusion ? Ça crée toutes sortes de difficultés. Vous êtes déjà perdu quand vous étiez en voiture, vous cherchiez... maintenant, GPS, c'est autre chose, mais quand il est en panne. Moi, ça m'est arrivé, ma femme m'a dit... On était allé à Mulhouse et dit « Ah, tu emmènes les cartes ?» Je dis « Non, j'ai le GPS. » C'était une des premières fois que je l'avais. Et je dis « Non, c'est bon. » Et en fait, il n'a jamais marché parce qu'il cherchait le satellite tout le temps. Après, j'avais des amis qui ont dit « Ah, nous aussi. » Et donc, quand ça ne marche plus, on est perdu. Et ça crée toutes sortes de confusions. On s'est perdu et tout ça, voilà, parce qu'on n'avait plus de cartes, on n'avait plus rien. Les chrétiens, quel est le nom que nous avons et qui n'est pas un nom de confusion? Quel est notre nom? L'identité que nous avons, elle est en quoi? En qui? Est en Christ, en Jésus. Donc nous avons le nom de... Vous voulez bien le nommer, le nom de Jésus. Nommez le nom de Jésus. Est-ce que c'est le nom que vous voulez avoir sur vous, qui est prononcé sur vous, que vous suivez? Vous voyez, ça, c'est une valeur sûre. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom pour que tout genou fléchissent devant lui. Un jour, tout genou fléchira devant lui. Si aujourd'hui les hommes sont libres de ne pas croire, c'est parce qu'ils ne voient pas, mais parce que leurs yeux sont voilés, comme ceux, les yeux des disciples d'Emmaüs. Et pourquoi étaient-ils voilés, les disciples, il y a peut-être beaucoup de raisons, hein, mais est-ce que vous avez une idée pourquoi les yeux, l'entendement, la compréhension des disciples d'Emmaüs étaient voilés? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru que Jésus est ressuscité? Parce qu'ils avaient le témoignage, puisqu'ils le disent, on n'a pas lu tout le texte, hein, mais si vous lisez le texte, ils disent même à Jésus, qui est à côté de lui, à côté d'eux, ils lui disent, mais ce matin, il y a des femmes qui ont dit, on l'a vu, c'est vrai, on l'a vu. Mais bon, c'est des histoires de bonnes femmes qu'on dit. Hein. Voilà. Donc pourquoi n'a-t-il pas cru? Ce sont les disciples, hein, disciples d'Emmaüs. Ce ne sont pas des païens, ce sont des juifs, ce sont des gens qui ont entendu, qui étaient avec Jésus, qui ont vu Jésus faire des miracles, qui ont Jésus... Ils ont tout vu. Ils étaient au bénéfice du ministère de Jésus. Et pourtant, Jésus ressuscite. Et ils ne croient pas à la résurrection. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils sont dans un tel état?
Manque de foi?
Manque de foi. D'accord. Donc c'est un peu le mépris de la femme, c'est ça? Non, j'ai mal compris ta réponse. Voilà, donc il devait se manifester d'abord aux disciples. D'accord. Ouais, ça peut être tout à fait une réponse. Ouais. Le deuxième texte que j'ai lu, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit, hein? Parce que l'apôtre Paul a l'habitude d'expliquer un petit peu les choses, hein, plus qu'il le décrit. Et là, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale. Pourquoi est-ce que c'est un scandale? En fait, pour les disciples d'Emmaüs, même pour les disciples qui étaient juifs, c'est un scandale, la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils n'y croyaient pas. Imaginez, pendant 3 ans, Jésus, vous avez les évangiles comme moi aussi, vous voyez bien que Jésus parle de sa résurrection. Hello. Et il parle de son rétablissement, il parle des 3 jours où le temple sera détruit, il sera reconstruit, etc. Enfin, vous ne trouvez pas que c'est clair? Ah. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Ouais. Oui, mais il y a quelque chose qui les en empêchait de croire. C'est le raisonnement, oui. Voilà. Pardon? Leur identité aussi, oui. Alors, je voudrais rebondir sur le raisonnement qui a été cité par Bruno. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17, il est écrit « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, hein, parce que Paul se défendait de baptiser, ce qu'il n'a pas été envoyé pour ça, bien qu'il pouvait baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. » Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas la sagesse du langage, Paul? Il y a une raison à cela. Tout d'abord, sagesse, c'est quelque chose que l'homme recherche, parce que la définition de sagesse, c'est une connaissance parfaite de toute chose. Vous avez-vous une connaissance parfaite de toute chose? Voilà. Bon, ben, ça, c'est le désir de l'être humain, en tout cas des sages, qui veulent pouvoir répondre à toutes les questions. C'est pour ça qu'on les appelle des sages. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est parfaitement sage, qui est parfaitement au courant de connaissance de toute chose, parfaitement? Ben, Jésus, oui. Mais en dehors des chrétiens, les hommes, ils recherchent ça. Ils recherchent ça. Il y a des gens qui vont faire le tour de la planète pour trouver quelqu'un qui va répondre à leurs questions. Ils sont... Et c'est normal. Parce que, regardez toutes les catastrophes qu'on a, s'il y avait des hommes sages, ils pourraient prévoir que la catastrophe au Japon n'arriverait pas, parce qu'ils auraient pu penser au tsunami, et finalement ils n'ont pas pensé, c'est pour ça que les centrales n'ont pas été construites comme ça. Mais la recherche de la sagesse, c'est à la base de l'humanité, vous voyez. Le problème, c'est que si elle est sans Dieu, si elle est sans Dieu, elle est limitée. Il y a une certaine connaissance, mais elle est limitée. Elle n'a pas toute la connaissance. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, et plus on cherche... plus c'est des connaissances qui échappent. Seul Jésus, effectivement, a toute la connaissance. Et c'est pour ça que nous, on est privilégiés, en tant que chrétiens, d'avoir Jésus. Hein, il a toute la connaissance. Mais l'homme naturel, il y a des hommes naturels ici ? Vous êtes aussi naturels ou vous êtes des esprits ? L'homme naturel que nous sommes, nous cherchons, au fond, cette sagesse. Nous cherchons la connaissance. Dans un sens, c'est un peu normal pour maîtriser les choses, pour pas que le toit nous tombe sur la tête tous les matins. Donc, il y a une certaine connaissance nécessaire. Mais si on met notre confiance dans cette connaissance, ça devient une idole, vous voyez ? Ça veut dire qu'on fait un dieu de cela. On fait un dieu de ces choses-là et on compte sur cela. Et très souvent, ça nous tombe sur la tête parce qu'en fait, d'un seul coup, il y a un phénomène, on n'y a pas pensé, ça nous tombe sur la tête. C'est pour ça que seul Jésus est sagesse. Et le langage, pour revenir au langage, le langage est la particularité de l'être humain par rapport à l'animal. L'animal, c'est une créature de Dieu. Vous êtes d'accord ? Mais la particularité de l'homme par rapport à l'animal, c'est le langage, entre autres. Mais le principe. Et avec le langage, il peut donner un nom sur les choses et il peut dominer les choses. C'est pour ça que quand on enseigne dans les universités, on donne des noms à des choses pour transmettre cette connaissance. Et le nom permet de maîtriser les choses. Eh bien, Paul dit, je n'utilise pas la sagesse du langage. Je n'utilise pas la sagesse du langage. Parce que cette sagesse... Et le langage, en fait, est un instrument de mensonge, souvent. C'est-à-dire qu'on utilise le langage pour prétendre savoir, et en fait, on ne sait pas. Et à tous les niveaux de l'humanité, ça se passe, que les grands, par rapport aux autres, « Oh oui, mais le peuple, il ne peut pas savoir. » Donc on taxe souvent les gouvernants de ne pas dire la vérité, parce qu'ils disent, si on dit la vérité, en fait, le peuple ne peut pas comprendre. Donc, vous voyez, donc à toutes les strates, c'est comme ça. Entre les parents, les enfants, on parle du Père Noël. Il y en a qui parlent du Père Noël. Bon, on ne veut pas dire que ça n'existe pas, etc. Vous voyez, c'est la sagesse du langage. Et tout est comme ça, si vous analysez les choses. Et Paul dit, je n'utilise pas la sagesse du langage. Parce que je veux que ce soit la puissance de la croix qui fasse son œuvre en nous. Que ça ne traverse pas les couches de notre intelligence, mais que ça touche notre cœur directement. Et les disciples d'Emmaüs étaient pris dans cette sagesse du langage. Pourquoi ? Parce que, eh bien, tout autour d'eux, Et toutes les religions autour d'eux, et on a tous des religions autour de nous, hein, de plus en plus, les gens deviennent religieux, puisqu'ils ne peuvent plus faire confiance aux hommes. Donc, ils se fabriquent des religions, c'est sûr. Hein. Il y a autant de religions presque que d'êtres humains maintenant, hein, parce que tout le monde bricole, on prend un peu de bouddhisme, d'hindouisme, de catholicisme, de protestantisme et tout, voilà. Et donc, on se fait une religion, on se fabrique sa religion, sa croyance, comme ça, on a l'impression d'être en sécurité. Mais Paul dit, moi, je prêche Christ, Christ crucifié. Il n'y a que la croix. Il n'y a pas autre chose qui peut nous sauver. Or, c'était un scandale pour les Juifs et une folie pour les croyants, pour les Grecs, pour les non-juifs. En effet, si vous prenez les religions, toutes les religions, ils ont un Dieu qui meurt et qui renaît. Alors, comme Jésus, si vous voulez. J'ai étudié ça, j'ai dit, ah oui, effectivement, ça amène une certaine confusion. Est-ce qu'il y en a ici qui font la différence entre être ressuscité, renaître, ou revenir de la mort ? Il y en a qui font une différence entre ces trois termes, revenir de la mort, ressusciter et renaître. Non ? Pour vous, c'est la même chose ? Non ? Bon, vous n'allez peut-être pas le définir. Mais pratiquement toutes les religions qui ont toujours existé, qui existent, ils ont un Dieu qui meurt et qui renaît. Prenez l'exemple du soleil. Le soleil, la nuit, le soir, il disparaît et le matin, il revient. Eh bien, tout ce phénomène, dans tous les peuples du monde entier, y compris chez les Aztèques, sans parler de Mithra, d'Apollon, enfin tous les noms qui ont été donnés, ils ont tous un dieu qui meurt et qui renaît chaque jour. C'est cyclique. Ou alors un dieu de la végétation. En Égypte, c'était Osiris qui produisait toutes les récoltes du Nil, et il était adoré comme le dieu de la végétation, qui effectivement, ça renaît au printemps, on a la renaissance de la végétation, et puis en automne, il meurt. Et ça, c'est la sagesse du langage. Le langage fait que on comprend les choses comme quoi il y a une mort et puis il y a une vie qui revient, etc. Et donc, on donne un nom, on dit, là, il y a un dieu derrière. Et donc, on l'adore pour Dieu, on lui donne des offrandes, parce que surtout que ça ne s'arrête pas, parce que c'est notre vie qui en dépend, vous voyez, on dépend de cela. Et donc, toutes les religions sont basées là-dessus, sur un dieu qui meurt et qui renaît. Je pourrais vous donner des exemples par milliers. Donc, quelque part, on s'attend à une divinité qui meurt et qui renaît. Et d'un seul coup, là, Jésus, il ressuscite. Voyez-vous, toutes les religions, dans cette vision de la divinité qui est projetée sur la nature, c'est cyclique, c'est cyclique. Ça recommence. Et c'est pour ça que l'homme religieux païen, eh bien, il n'a pas de sens à sa vie parce que c'est des choses qui reviennent. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il enseigne aux disciples d'Emmaüs ? Il leur parle des prophéties, il leur parle de l'écriture. Il revient à toute l'écriture, il commence à la Genèse jusqu'à lui, et dit, mais toutes ces choses ont été prévues. C'est-à-dire, on est dans un plan linéaire, des choses, ça donne un sens à l'histoire. Et en tant que chrétien, on a un sens. Si on n'a pas de sens, eh bien, on est comme les païens. Les choses reviennent, et cycliques, et ça recommence, etc. La différence entre le chrétien, c'est qu'il a une vie qui a du sens, qui va quelque part, qui vient de quelque part, qui va quelque part. C'est Dieu qui a les choses en main. On est dans un plan. Amen. Et on n'est pas dans des cycles qu'on nomme par le langage des dieux. Et la résurrection était un scandale parce que tout naturellement, et vous aussi comme moi, on souffre sur cette terre. Il y en a qui ne souffrent pas ici. On souffre de son corps. Il y en a qui souffrent du corps physique à cause d'une maladie. Il y en a qui souffrent parce qu'ils ne se trouvent pas bien. Ils voudraient être autrement. Enfin bon, il y a des maladies psychologiques, il y a des maladies de toutes sortes. Mais tout le monde souffre. Okay, c'est le lot de l'homme de souffrir. Okay. Donc, quelle est la projection qu'on va faire dans l'avenir ? Est-ce que c'est de garder ce corps de souffrance et de rester dans la souffrance ? Ce n'est pas un avenir très très heureux. Ce n'est pas un avenir très enviable, vous le reconnaissez. Donc toute l'humanité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa religion, eh bien, elle aspire à ne plus souffrir. Il y en a qui aspirent à souffrir ici encore, dans l'au-delà, dans l'éternité. Non, non. Donc on cherche à ne pas souffrir. Or, qu'est-ce qui nous fait souffrir ? C'est essentiellement le corps. Parce que, vous savez, ceux qui veulent éviter de souffrir, eh bien, ils prennent de la drogue. Entre autres, et ils se projettent, enfin, ils sont naturellement projetés par la drogue dans un monde virtuel, et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Et c'est pour ça que la drogue est tellement utilisée. Et en France, en particulier, la jeunesse utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments pour s'évader, un peu comme s'il y avait une sorte de tristesse au fond, okay, un manque de sens. Eh bien, Dieu, en Jésus-Christ, eh bien, il prend à contre-pied toutes ces démarches de recherche de sens. Et il ressuscite un être humain. Il ressuscite Christ, qui est véritablement homme, et il lui redonne un corps. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est une aberration pour l'espérance de l'homme dans l'au-delà. C'est une aberration. Et c'est pour ça que leurs yeux étaient voilés. Ils disaient, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que jusque-là, tous les enseignements qui les entouraient, y compris les juifs, qui avaient Baal, Astarté, etc. Et tout ça, c'est des dieux de la Renaissance. Baal, c'était de la végétation et du soleil. Eh bien, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu, dans sa toute puissance, dans sa préscience, il ressuscite un être humain. Il ressuscite leur maître, qui est Jésus. Parce que Jésus, il n'avait pas une auréole. Vous savez, maintenant, sur le tableau, on voit les auréoles sur Jésus, mais lui, il n'avait pas cette auréole. Ça, c'est au Moyen-Âge qu'on a inventé ça. Mais il était un être humain. Il était charpentier. Il était... Bon, c'est vrai qu'il avait une sagesse. OK, ça, c'était frappant. Il pouvait guérir des malades. Il pouvait faire des miracles. Mais sinon, c'est un être humain. Et il n'avait rien de particulier qui puisse le distinguer d'un autre être humain, si ce n'est cette sagesse. Et donc, les disciples... La résurrection, ça n'avait pas de sens. Quand il leur disait « je vais mourir », je dis « mais attends, Seigneur, Pierre, il s'est mis en colère ». Il dit « ça ne t'arrivera pas, rappelez-vous ». Et Jésus a dû dire « arrière de moi, Satan ». C'est un scandale. C'est un scandale pour un Dieu de mourir réellement et de ressusciter réellement. De mourir et de renaître, ok, on a l'habitude, c'est cyclique, ça revient tous les ans, etc., puisqu'on l'a nommé. Mais là, c'est hors, en dehors de toute compréhension, de toute imagination. Donc, vous voyez, Dieu ne peut pas parler à notre être dans la sagesse humaine. Parce que ce sont des choses qui ne montent pas. C'est quelque chose qui les a surpris. Quelque chose qui les a pris de court. Ils n'y pensaient pas. Ils n'étaient pas prêts à recevoir ce message. Et nous aussi, très souvent, nous ne sommes pas prêts à recevoir un message lorsque Dieu nous parle directement dans sa manière à lui, dans notre vie. Ça ne peut pas venir de notre propre sagesse, parce que notre sagesse, eh bien, elle est limitée. Notre sagesse, elle est formée par des concepts que nous élaborons sur la divinité, sur Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu de révélation. Dieu a parlé à Abraham, Isaac, Jacob. Il a utilisé des personnes à qui il s'est révélé. Et la parole révélée de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous ne pouvons la comprendre que lorsque nous entrons pleinement dans cette parole et que nous le laissons parler à nos cœurs. Et qu'ensuite, après, elle nourrit notre intelligence. Vous savez, il y a eu un débat dans le christianisme, en Europe particulièrement, entre la foi et la raison. Et c'est quelque chose qui n'a fait que grandir. On a dit, oui, mais il faut aussi la raison. Et petit à petit, eh bien, la raison a pris le dessus sur la foi. Mais ce n'est pas que la raison est mauvaise, parce que Dieu nous a donné une raison, parce que ce que Dieu a fait, c'est raisonnable. Il a créé le ciel et la terre avec des lois qui sont raisonnables, qu'on peut raisonner, qu'on peut comprendre, qu'on peut utiliser avec notre intelligence. La seule chose, c'est que la raison doit venir après la foi. C'est qu'elle doit être vivifiée par la foi. C'est qu'elle doit être nourrie par la foi, voyez-vous. Mais il ne faut pas jeter la raison au panier. Ça, c'est de l'infantilisme chrétien. Non. Mais c'est d'abord la foi, et la foi nous aide à comprendre les choses et à les exposer. Paul, il utilisait sa raison pour exposer les choses, pour faire comprendre l'évangile. Quand vous évangélisez, c'est pareil, vous avez une stratégie pour évangéliser. Parce que si vous n'en avez pas, vous tombez sur un mur. Et suivant les pays, il y a des stratégies d'évangélisation. Dans certains pays, ils ne peuvent pas parler de moutons, ça n'existe pas, ils parlent de cochons. Ils ont aménagé les choses pour que les choses... Bon, c'est, Dieu nous a donné une intelligence. Mais c'est toujours après la foi. Ce qui est merveilleux dans la résurrection de Jésus, c'est que Dieu n'a pas abandonné son plan initial. Le plan initial de Dieu, c'était de faire un homme, une femme, des humains, des êtres humains avec lesquels il puisse relationner. Il voulait relationner. Dieu, c'est un être de relation. Et l'homme et la femme sont des êtres de relation. C'est pour ça que Dieu a prévu le couple dans le mariage où il y a des relations. Or, aujourd'hui, les relations sont plus difficiles. Vous le voyez bien avec tous les divorces qu'il y a. Mais ça ne change rien au plan initial de Dieu. Dieu voulait et veut des relations. Et c'est dans les relations. Et il est dit que Christ, c'est dans notre relation avec lui que toutes les choses prennent du sens. Et cette relation, Dieu veut l'établir, Dieu veut la créer. Et il n'a pas abandonné l'homme à la chute, parce que l'homme et la femme ont chuté, Adam et Ève, et ils ont donné naissance à la rébellion contre Dieu. Dieu n'a pas abandonné ça. Et il a demandé à son propre fils d'être un être humain, de vivre cette souffrance humaine, de vivre cette difficulté humaine, de vivre cette limitation humaine. Jésus a été limité. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a été tenté en toute chose comme tout être humain. Mais lui n'a jamais péché. lui n'a jamais chuté, lui n'a jamais désobéi à Dieu. Parce que c'était lui qui était ce nouvel Adam, comme dit la parole de Dieu, cette nouvelle création de Dieu qui permet à ce que la race humaine soit sauvée, que nous puissions être sauvés, et que nous puissions vivre notre destinée dans l'idée que Dieu avait pour nous, dans l'idée que Dieu voulait que nous soyons être dans la relation avec lui. Or, la chute nous a coupé de la relation, nous a privé de la relation avec Dieu. Et en Jésus-Christ, nous retrouvons cette relation. Nous retrouvons cette capacité de discuter avec Dieu, d'échanger avec Dieu, de recevoir sa parole, de pouvoir le prier, de pouvoir l'implorer, de pouvoir lui faire connaître notre cœur. Et le Seigneur répond, parce qu'il nous aime. Amen. Et c'est ça... Cet évangile que Paul voulait annoncer, non pas avec la sagesse du langage, mais avec la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous héritons aujourd'hui. C'est que nous appartenons à un nouvel Adam. Bien sûr, nous sommes en tension parce que nous avons notre corps de chair, mais nous attendons le corps glorieux. Amen. Et nous aurons le même corps glorieux que Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Nous sommes dans un chemin d'espérance, un chemin où nous savons à coup sûr, pas simplement une promesse, mais nous savons que nous aurons ce corps-là parce que Jésus, il l'a déjà, il est déjà en possession de ce corps, de cette nouvelle humanité que Dieu a créée en Jésus-Christ. Et ça, c'est la foi chrétienne, ça, c'est l'assurance chrétienne. Notre première vision de l'avenir, notre premier futur de l'avenir, c'est la gloire. Alléluia. Nous connaîtrons la gloire. Et la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Et la gloire de l'Éternel, nous vivrons dans la gloire de l'Éternel. Notre corps sera glorieux, notre glorieux. Et ça, c'est merveilleux pour les gens qui souffrent aussi. Cette espérance de leur dire, eh bien, vous aurez un corps glorieux. Et ce corps glorieux, eh bien, nous l'aurons comme Jésus. Amen. Il y en a qui se réjouissent de ça. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais juste terminer pour vous donner une autre... Dans le cadre de notre vision, parce que dimanche prochain, nous aurons des interviews aussi là-dessus pour terminer, pour montrer qu'il y a aussi, ça c'est l'espérance à long terme, le corps glorieux. Mais nous avons une espérance sur la terre aussi. Dieu veut faire de nous des témoins de sa résurrection. Les disciples ont été témoins de sa résurrection. Les disciples n'ont pas vu la gloire de leur corps, encore, parce que ça fait 2000 ans que ça s'est écoulé, mais ils attendent. Et nous attendons avec eux. Donc, notre avenir, c'est la gloire, recevoir un corps glorieux qui ne pêche plus, qui n'est plus soumis aux lois que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, nous avons cette espérance en Jésus. Mais en attendant, il nous a donné une mission. Il a dit, ne gardez pas ce trésor pour vous, mais partagez-le. Partagez-le, parce que c'est un message extraordinaire, le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Partagez-le autour de vous. Et vous allez voir des choses qui se produisent. Et c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à partager l'Évangile. Si nous ne le faisons pas, Dieu ne nous en voudra pas. Mais nous passons à côté de la destinée que Dieu nous a donnée. Parce que c'est une joie de voir quelqu'un venir au monde. C'est une joie de quelqu'un voir le salut en Jésus-Christ. C'est une joie de voir quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur. Et je voudrais juste vous donner... quelques éléments sur ce que, à moyen terme, nous attendons en tant qu'Église. Nous avons aussi une vision de l'avenir, hein, en tant qu'Église ici. Parce que Dieu a choisi une Église ici, ce n'est pas l'Église de Pierre-Paul-Jacques ici, c'est l'Église d'Aubergenville. À Aubergenville, Dieu a voulu qu'il y ait un lieu où son nom soit prêché, son évangile soit proclamé. Et ça, ça nous donne l'espérance que ce n'est pas lié à des personnes, mais c'est Dieu qui l'a prévu pour un but. Et c'est quoi ce but-là? Eh bien, je vais vous le dire. Ça. Cette vision de l'avenir, hein, qui est très souvent appelée vision tout seul, mais pour moi, vision tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est perception de quelque chose. Donc, d'un côté, il y a la vision de notre identité, et ça, je ne reviens pas là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé. Mais à l'intérieur de cette vision, il y a 5 autres visions. Hein. Et à part les rudiments, il y a d'abord la vision de notre origine, et parce que nous ne venons pas de nulle part, hein, nous venons parce que Dieu nous a créés, parce que Dieu a un appel sur nous, il a une vocation, donc il faut avoir cette vision-là. Et il y a la vision de l'avenir, parce que notre vie a un sens, sur la vie terrestre je parle, hein, puisque la vie future, j'en ai parlé, c'est la gloire. Mais la vie terrestre a un sens, nous avons tous un sens à découvrir dans notre vie terrestre. Et notre Église a une vision de l'avenir qui est un rêve ou un but, si vous voulez, c'est le rêve de Dieu, hein, mais c'est un rêve, c'est un but. Et nous avons aussi la vision de notre présence et la mission. Ça, ça donne du sens à notre histoire. Si nous n'avons pas ce sens, effectivement, nous tournons un peu en rond dans notre vie chrétienne. La troisième vision, c'est la vision de la qualité de notre restauration, notre guérison. Est-ce que nous sommes libres réellement de faire cette mission? Et la cinquième vision, c'est la vision, la qualité de notre maturité. Alors, pour parler juste que de la vision de notre futur, notre avenir, ou rêve, ou projet, hein, que Dieu a pour cette Église, il nous l'a vraiment confirmé, c'est de toucher cinq pôles de solidarité humaine. Comme je le disais, solidarité, c'est les relations où on s'aide les uns les autres. Hein. Et donc, il y a plusieurs solidarités dans lesquelles Dieu veut amener la restauration au travers de l'Église d'Aubergenville. Ce sont les cinq éléments de la famille, de l'Église, de l'école de formation, de la ville et de la société. Et je voudrais le montrer sous forme un peu d'escargot. On peut le voir, cette vision, on peut le voir de différentes manières. Mais au départ, il y a un individu. Dieu a créé un individu, mais pas pour rester seul. Il a dit, l'homme ne restera pas seul, parce qu'il faut une relation. Donc la première relation, c'est la relation de la famille. Et la deuxième relation, c'est la relation de l'Église. Et voyez, ça, c'est toutes deux des institutions divines. La première institution de la famille a été créée par Dieu à l'origine, c'est marqué dans la Genèse, et la deuxième, elle a été créée par Jésus, dans Matthieu 16, qui est le corps des croyants. Le premier, c'est le corps naturel de solidarité, le deuxième, c'est le corps spirituel. Ensuite, une école de formation. Ensuite la ville, ensuite la société, ensuite l'État, mais on ne se sent pas concerné par l'État. Vous voyez, il y a certaines religions qui se sentent concernées par l'État. Il y a d'autres solidarités nationales, internationales, etc. Donc cette vision, ça doit toucher les cinq. Et les objectifs, je dirais que moi je ne vois pas, comme certains ont des visions très précises de leur avenir à moyen ou long terme sur la Terre, de dire notre Église aura 80 000 personnes ou 3 000 personnes. Ou ça. Moi, je ne le vois pas du tout en termes de quantité. Non pas que j'ai peur des quantités, mais je trouve qu'il n'y a pas de réalité derrière, parce que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de sauver. Nous, on ne peut sauver personne. Donc, en termes de quantité, ça n'a pas de sens, en termes de notre foi. Mais par contre, en termes de qualité, j'ai mis 100%. C'est-à-dire 100% de qualité, hein. Je parle comme des gens de qualité. C'est pas un niveau de quantité, mais c'est un niveau de qualité. Donc 100% de qualité au niveau de la famille. Je pense que ça, c'est un objectif qu'on peut avoir pour qu'on ait des familles dans la dignité, dans l'excellence, comme on l'a mis dans notre vision. Nous voulons vraiment travailler à cela, parce que c'est un appel que nous avons reçu. Deuxièmement, une Église à 100% accueillante et dynamique, et bien d'autres choses, mais deux termes importants qui reviennent. Ensuite, une école de formation pratique, et là, on a une solidarité avec d'autres écoles, que ce soit l'école de la Source pour les enfants, l'école de théologie à Vaux, ou d'autres qui forment au niveau de la théologie, et nous-mêmes qui sommes une école de formation, parce que nous apprenons des choses ensemble en avançant. Donc, ça, c'est une... je dirais une responsabilité d'influence et une responsabilité directe. La famille et l'Église, elle est directe, parce que nous avons une prise directe sur ce point-là, dans l'Église. L'école, elle est partagée, mais c'est une extension de l'Église. Et ensuite, la ville et la société, c'est une responsabilité d'influence. Nous avons à influencer. Nous voulons que les bénédictions de Dieu puissent toucher la ville, et nous voulons influencer la société par les valeurs du royaume de Dieu. Alors je dirais que ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on peut faire une évaluation de ces objectifs d'année en année. Moi, j'essaie d'en faire une devant le Seigneur. Et à la limite, en tant que leader, vous pouvez le faire, parce que ça, c'est une vision qui m'est propre, mais qui n'est pas partagée avec les responsables. Mais je pense qu'au niveau famille, on a quand même réussi avec les années à amener un certain niveau de qualité dans les familles par rapport à cette vision. D'avoir des familles qui... Et juste pour dire l'importance de la famille aux yeux du Seigneur, c'est que, un, il a commencé à appeler Abraham, une famille, Isaac, Jacob sont des familles, où on apprend beaucoup de choses. Hein, ce sont des lieux de transmission de la vie. Hein, la vie, elle se transmet dans la famille. Des lieux où on donne sens à la vie. Les parents donnent du sens et transmettent des valeurs, et essentiellement l'amour. Hein, c'est l'amour. Oui, moi, j'ai été frappé quant à la mort de Mesrine, vous vous rappelez de ce bandit, eh bien, sa mère l'a défendu griffé ongle en disant qu'il est innocent, etc. Enfin, de voir la puissance de l'amour de la famille, l'amour d'une mère pour son fils, pour un bandit, quoi. Et bon, ça, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur, c'est l'amour. C'est aussi un lieu d'apprentissage de solidarité, parce qu'on est obligé d'être un peu responsable l'un de l'autre. Lieu d'éducation, lieu de réciprocité, lieu d'apprentissage de la correction. Il y en a qui n'ont pas besoin de correction aussi. Voilà, on l'apprend dans la famille, en principe, enfin, c'est ce que Dieu a prévu. Apprentissage du pardon, apprentissage de la foi et prendre du temps ensemble. Le deuxième niveau, l'Église. Je pense que l'Église, en termes de qualité, on a cette capacité d'accueil et vraiment de dynamisme aussi, hein, qu'on a réussi à avoir depuis une dizaine d'années. On y travaille et les choses avancent beaucoup. Bien sûr, l'école, on est un peu plus en retrait, hein, mais parce que c'est plus de l'influence, et la ville et la société, on a encore des progrès à faire, parce que c'est de l'ambassade. Hein, c'est de l'ambassade. Hein. Bon, Jérôme, il n'est pas là, si. Il y a une personne, un entrepreneur sur Aubergenville, mais il en faudrait plusieurs. Hein. Quand vous entendez, par exemple, à la télévision, si vous avez vu la télé, ce clip qui est fait aux États-Unis, hein, bon, bien sûr, les États-Unis sont fondés sur Dieu, donc c'est différent. Ils n'ont pas de mérite particulier. Mais dans une ville où il y a le shérif, c'est... Je ne sais pas quel est un équivalent de shérif, mais bon, en France, il n'y en a pas. Bon, enfin bon, il fait beaucoup de choses, le shérif, la loi, le machin, etc. Il y a le directeur de l'école, il y a bien sûr le pasteur, il y avait... Pardon ? Non, il n'y a pas de maire là-bas, le shérif. Enfin, tous les hauts responsables d'une grande de cette ville. Ils se réunissaient toutes les semaines pour prier. Et ça, on peut mettre peut-être 90% dans l'influence de la ville, parce qu'ils se réunissaient pour prier, ils parlaient des projets. Quand il y avait des mauvais projets qui venaient dans la ville, ils jeûnaient, ils priaient, ils partageaient ça. Ils avaient des staffs toutes les semaines. Allô ? Vous voyez ça un peu ici ? Oui, mais c'est un objectif à chercher à atteindre. C'est influencer la ville avec les valeurs du royaume. Donc, c'est pour ça que j'ai mis bas, parce que pour l'instant, on a juste un entrepreneur. Non, il y en a un deuxième, hein, mais il n'est pas de notre église, mais j'ai appris. Comme quoi, avec les réseaux, on commence à connaître des choses. Il y a un entrepreneur qui est là aussi, qui va dans une église à Paris. Enfin, ceci pour dire que nous avons des objectifs et on peut les évaluer pour nous encourager à dire, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes qui, pas simplement attendons l'éternité pour avoir le corps glorieux, mais nous voulons aujourd'hui, ici et maintenant, être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Amen. Il y en a qui le veulent ici, ce matin. Alors nous allons prier pour que Dieu nous aide. Pour que Dieu nous aide. Alléluia. Je vous invite peut-être à vous lever pour manifester votre volonté que cette église que Dieu a suscitée ici, eh bien, puisse être cet ambassadeur du royaume. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné du sens, Seigneur. Et nous voulons vivre ce sens à la hauteur des enjeux que tu mets devant nous. Seigneur, nous savons que toi, tu peux toutes choses. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous épuiser à la tâche. Nous voulons simplement, Seigneur, te suivre. Simplement, Seigneur, faire, obéir à toi comme Jésus l'a fait. Pour qu'à chaque étape, Seigneur, nous puissions constater les fruits qui viennent de toi. Les fruits, Seigneur, qui te glorifient. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'école, lieu d'enseignement, de transmission et de partage des expériences.
mais aussi, Seigneur, dans la ville et la société, nous voulons voir cette Église rayonner de ta gloire, Seigneur, et qu'elle ne s'enorgueillisse jamais, jamais, parce que c'est toi seul qui agis et qui fais ces choses, et nous te le demandons, Père. Nous te remercions pour le parcours que nous avons pu avoir, mais aussi, Seigneur, pour celui qui nous attend, parce que nous avons vraiment, Seigneur, des choses merveilleuses que nous allons voir, que nous allons expérimenter. Nous te louons pour cela, et nous t'adorons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.